Bienvenue dans Présicast, le podcast OpinionWay dédié à l'élection présidentielle. À trois jours du second tour, Bruno Jambard et Frédéric Michaud, directeur général adjoint et directeur des études politiques d'OpinionWay, reviennent sur les reports de voix et l'abstention, deux grands enjeux du scrutin.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Présicast, le dernier avant le résultat final de cette élection présidentielle 2017. Et on va un peu faire le point à cette occasion sur l'entre-deux tours, les rapports de force entre les deux finalistes Emmanuel Macron et Marine Le Pen, et ce que l'on peut estimer ou projeter comme résultat probable et comme tendance probable pour dimanche prochain. Alors Frédéric, déjà, est-ce qu'on a constaté une évolution importante dans cet entre-deux tours entre les deux candidats ?
Non, pas véritablement. Aujourd'hui, le rapport de force est très clairement en faveur d'Emmanuel Macron, 61% contre 39% des intentions de vote pour Marine Le Pen. On a observé une très faible amplitude depuis le lendemain du premier tour, puisque au plus bas, Emmanuel Macron est descendu à 59%, et avec 61%, il atteint son score le plus élevé, donc une variation de seulement 2 points. C'est d'ailleurs très conforme à la tendance historique. Généralement, dans les élections présidentielles précédentes, le rapport de force de l'entre-deux-tours reste particulièrement stable. Ça avait été le cas dans la plupart des élections présidentielles, à l'exception notable toutefois de l'élection présidentielle de 2012, dans laquelle on avait observé un resserrement très net des intentions de vote dans la deuxième semaine de l'entre-deux-tours. Nicolas Sarkozy avait progressé de 3 points et le rapport de force électorale s'était resserré, passant de 55% pour François Hollande à 52%. Mais en dehors de cette exception historique, généralement le rapport de force reste stable. On le comprend assez bien, d'abord parce que l'entre-deux-tours ne dure que 2 semaines. Donc le temps pour que les courbes s'inversent est assez limité. Et puis ensuite, généralement, la physionomie du second tour est inscrite dans les résultats du premier tour. De ce point de vue, ce que nous observons depuis le 24 avril est plutôt dans la ligne historique des entre-deux-tours des élections présidentielles précédentes.
On s'interroge beaucoup sur les reports de voix à l'issue du premier tour. On a beaucoup discuté de la non-consigne donnée par Jean-Luc Mélenchon, de la consigne à l'inverse donnée par François Fillon en faveur d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'on voit à la fois dans nos reports de voix aujourd'hui, mais surtout dans leur évolution aussi, dans cette période ?
Alors d'abord, on voit des éléments qui sont très classiques. Les électeurs de chacun des candidats qualifiés pour le second tour, les électeurs du premier tour se reportent en très grande majorité, à plus de 95%, 98%, sur leur candidat. Donc chacun des deux candidats conserve son électorat du premier tour. Alors ensuite, on observe quand même des situations différenciées selon les électorats. Les électeurs de François Fillon jouent plutôt le jeu du Front républicain. Aujourd'hui, 45% d'entre eux voteraient pour Emmanuel Macron. Alors, il y a eu quelques variations depuis le 24 avril, mais cette option, le vote pour Emmanuel Macron, a toujours été l'option principale des électeurs de François Fillon. L'abstention a également séduit pendant un temps une partie des électeurs du candidat des Républicains. Mais désormais, seuls 27% d'entre eux pourraient s'abstenir ou voter blanc ou nul lors du second tour. Et 28% pourraient voter pour Marine Le Pen. 28%, c'est 10 points de moins que ce que nous avons observé le 24 avril, c'est-à-dire le lendemain du premier tour. Il y avait là sans doute une tentation du vote frontiste qui était motivée par la déception, par l'amertume, par la colère. Et puis dans les jours qui ont suivi, ce sentiment, cette tentation s'est largement affaibli. Et désormais, 28% seulement des électeurs de François Fillon voteraient pour le Front National. À gauche, la situation également est intéressante à observer. Les électeurs de Benoît Hamon se reportent très nettement sur Emmanuel Macron. 77%, donc plus de trois quarts d'entre eux, voteraient pour le candidat d'En Marche. 18% s'abstiendraient. Le vote frontiste est vraiment résiduel, puisqu'il ne concerne que 5% des électeurs du candidat socialiste. Ce qui est très intéressant également, c'est d'observer les reports de voix parmi l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Et là, on a observé de vraies variations. Aujourd'hui, 45% des électeurs de la France insoumise voteraient pour Emmanuel Macron. C'est la première option chez ces électeurs, mais en fin de semaine dernière, au début de cette deuxième semaine de l'entre-deux-tours, c'était l'abstention qui a été privilégié par ses électeurs. Il y a là un petit retournement de tendance. L'abstention reste quand même une tentation hein, très très forte, puisque quasiment 4 électeurs de Jean-Luc Mélenchon sur 10 sont tentés par ce choix. On l'a vu d'ailleurs dans la consultation que le candidat a organisée auprès des adhérents de son parti. Hein. C'était vraiment l'option qui est ressortie du vote des adhérents et des militants. Et puis il y a aussi 16% de ces électeurs qui pourraient voter pour Marine Le Pen. Là, c'est sans doute je dirais une proximité sociologique entre les deux électorats qui peut-être incite 15 à 16% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon à voter pour Marine Le Pen. Voilà ce qu'on peut dire globalement et en détail pour les principaux électorats. Peut-être un point sur Dupont-Aignan, sur les électeurs de Dupont-Aignan, même si évidemment leur nombre est beaucoup plus réduit que ceux des électorats précédents, puisqu'il a obtenu seulement 1 400 000 voix. Aujourd'hui, chez ces électeurs, c'est l'abstention qui l'emporte très nettement, 43% d'entre eux, avec une progression très très nette depuis le début de cette deuxième semaine. Le vote pour Marine Le Pen ne concerne que 32% des électeurs de Dupont-Aignan, alors même qu'elle a annoncé lors d'une conférence de presse samedi que si elle était élue, Nicolas Dupont-Aignan serait son premier ministre. Et puis, tout de même, un quart des électeurs de Nicolas Dupont-Aignan qui voterait pour Emmanuel Macron. Ces différents reports de voix ne sont sans doute pas de nature à inverser le rapport de force électoral. Il n'y a pas de véritable incertitude ou un suspense intenable en ce qui concerne l'identité du vainqueur. Les enjeux se situent plutôt à d'autres niveaux, notamment le score qu'obtiendra Emmanuel Macron au soir du second tour, avec la barre symbolique des 60%. Et puis également un enjeu en termes de participation électorale. Quel sera le niveau de l'abstention, d'une part, et puis quel sera également le niveau du vote blanc lors de ce second tour. Est-ce que nous avons d'ores et déjà des éléments qui nous permettent d'envisager l'abstention d'un côté, le vote blanc de l'autre?
Alors vous vous rappelez qu'avant le premier tour, on vous avait dit que, contrairement à ce qu'on avait pensé pendant longtemps dans cette campagne, la participation serait plutôt forte au premier tour, et ça s'est vérifié. Hein. Notre dernier chiffre de participation publié le vendredi était de 77%. Le samedi, dans une enquête confidentielle, on était à 78%, ce qui est le chiffre final, donc on était très proche. Là, quand on regarde un peu ce que nous disent nos enquêtes en termes de participation, on constate que, là encore, contrairement à une idée reçue, on devrait avoir un petit peu plus d'abstention dimanche qu'au premier tour, mais pas tant que ça. On est sur un indice de participation à ce jour qui est de 76%. C'est 2 points de moins qu'au premier tour, et il faut bien comprendre que c'est finalement très proche, et ça n'est pas un effondrement de la participation comme on peut le lire parfois. Alors quand même, ce 76% en retrait, c'est quelque chose d'atypique. C'est quelque chose d'atypique parce que normalement, au second tour, on vote toujours plus qu'au premier tour. J'ai regardé l'ensemble des 10 élections présidentielles, et quand on regarde, il n'y a qu'une réelle exception à ce phénomène où, qui consiste à voter plus au second tour qu'au premier. C'est 1969, où on a une participation qui avait nettement reculé entre les deux tours. Hein. On était passé de 77,6% de participation au premier tour à 68,9% au second tour. Donc une baisse de 8 points à peu près de la participation, ce qui est atypique. Il y a un autre cas, c'est 1965, mais en fait la baisse de participation est absolument marginale, c'est 0,2 points de moins au second tour qu'au premier, donc on ne peut pas vraiment dire que 65 était un cas de baisse de la participation, on était dans les deux cas à plus de 85% de participation. Donc là, on peut avoir une exception qui est comme celle de 69 pour la présidentielle, une baisse de la participation au second tour, ce qui serait atypique, ce qui serait logique aussi. D'un certain point de vue, cette élection, elle ressemble à celle de 1969, puisque on a un candidat du centre, on va dire, contre un candidat d'extrême droite, donc la gauche est absente du scrutin, comme en 69, et donc ça peut conduire plutôt à une baisse de la participation au second tour.
Alors en 69, on avait observé également une explosion des blancs au deuxième tour. Est-ce qu'on anticipe une progression spectaculaire du vote blanc pour dimanche prochain ?
Oui, alors c'est là où il y a probablement une ambiguïté, c'est que tout le monde parle de baisse de la participation, et c'est plutôt une baisse du nombre de suffrages exprimés auxquels on devrait assister. Parce que parallèlement, si la participation ne va pas beaucoup baisser, de notre point de vue, en revanche, on devrait avoir une très forte augmentation du nombre de bulletins blancs et nuls. Frédéric, vous l'avez dit, en 1969, on était à 6,42%. Des électeurs qui avaient voté blanc et nul. C'était énorme, hein, c'est historique, ça reste le record à ce jour pour une élection présidentielle. On devrait battre ce record. Aujourd'hui, dans nos indicateurs, on est à 10% ou un peu plus d'électeurs qui nous disent qu'ils souhaitent voter blanc ou nul. Et donc, on devrait faire tomber ce record dimanche prochain. Et donc, au final, avoir un nombre de suffrages exprimés qui sera relativement faible au regard de ce que sont les élections présidentielles. Alors, est-ce qu'on sera aussi faible qu'en 1969 avec une participation plus forte cette année et plus de bulletins blancs et nuls, ou pas, ça c'est encore, je dirais, incertain. Il faut savoir qu'en 1969, au final, seuls 64,4% des électeurs inscrits sur les listes électorales avaient exprimé un vote le jour du second tour. Donc en gros, seulement moins des deux tiers des électeurs. Là encore, c'était extrêmement faible. Ce sera à surveiller. Ça a des implications, ce score-là. D'abord, ça nous dira des choses sur le refus du duel entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron dans ce second tour. Le taux de bulletins blancs et nuls, évidemment, sera intéressant à regarder, à analyser, à comprendre. Est-ce que ce sont plutôt des électeurs qui viennent de la gauche qui auront voté blanc ou nul, plutôt des électeurs de la droite ? Là, la géographie de ce vote, et puis ce que nous diront les enquêtes, nous permettront d'en savoir un peu plus. Ça a aussi un autre effet, c'est que ça baisse mécaniquement le pourcentage d'inscrits avec lequel va être élu le nouveau président de la République. On peut prévoir que le président élu dimanche soir, a priori Emmanuel Macron, sera un président qui aura un nombre de suffrages en rapport aux inscrits qui sera relativement faible et donc un nombre de voix inhabituel pour une élection présidentielle. Et puis ça peut avoir un autre effet, c'est toujours un effet qu'on aime bien regarder, c'est est-ce que celui qui sera élu dimanche sera élu avec 50% des votants ou moins de 50% des votants. Pour rappel, il n'y a que deux présidents qui ont été élus avec moins de 50% des votants, c'est Jacques Chirac en 1995 et François Hollande en 2012. Donc c'est assez là aussi inhabituel. Là, on peut penser, compte tenu à la fois de l'écart entre les deux candidats qu'on mesure et du taux de bulletins blancs et nuls, que Emmanuel Macron devrait pouvoir être en mesure d'avoir plus de 50% des votants, parce qu'il a beaucoup d'avance dans ce second tour sur Marine Le Pen. Donc voilà un certain nombre de choses qui donneront pas mal d'informations finalement sur le résultat de ce second tour, sur sa signification, sur l'ampleur de la victoire évidemment dimanche, mais aussi sur un peu la dynamique, l'adhésion qu'aura suscité cette élection. Mais on voit bien que dans une élection où au premier tour on avait quatre blocs très distincts les uns des autres et assez proches électoralement, hein, de 19,5% pour Jean-Luc Mélenchon à 24% pour Emmanuel Macron, Il y a une difficulté pour les deux finalistes, évidemment plus forte pour Marine Le Pen, mais également pour Emmanuel Macron, de rassembler, comme on le fait de manière classique dans un second tour, et comme on le fait en général quand on est dans un affrontement gauche-droite en termes électoraux.
Parfait, voilà donc toute une série d'éléments que nous surveillerons avec attention dimanche soir et dans les jours suivants. Merci beaucoup.